touche pas à mon ton, sinon...
The world is a vampire.
Pas à mon ton rouge de Méditerranée, bien sûr, car il est en voie de disparition. Et c'est sur la musique du générique de World's War que nous commençons l'émission Zoom Écologie sur RFPP 106.3 FM. Une émission spéciale Sea Shepherd et Opération Blue Ridge en compagnie de la présidente de l'association en France et de notre capitaine du navire Zoom Écologie, le capitaine Raled.
Bonjour. Alors, bienvenue à cette émission. Donc, c'est à la suite d'une précédente émission qu'on avait fait sur les pirates notamment et sur ce qui s'était passé. On a parlé déjà de Sea Shepherd avant, on a fait une petite enquête sur ce que vous faites. Mais avant, je vais donc présenter. Donc, moi, je suis le capitaine Khaled. Vous êtes à bord donc bien de Zoom Écologie, notre navire écologique, bien sûr. Et donc à bas bord, il y a Simon qui est là. Donc Simon, c'est un pote, je l'ai ramené parce qu'il est breton et qu'il s'y connaît sur la marine. Bonjour Simon.
Bonjour à tous, on m'a dit que j'étais un petit peu le moussaillon. Donc, ouais, le moussaillon, c'est le plus jeune de l'équipage et c'est celui qui apprend son métier de marin.
Eh oui, bienvenue.
Merci en tout cas.
Nous avons aussi la présidente de Sea Shepherd, Damia SM Lali.
Bonjour, ouais c'est
bonjour.
Ça.
Ouais,
bien dit, ouais.
Donc c'est Sea Shepherd ou
Sea Shepherd.
Shepherd.
Ouais.
D'accord. Bienvenue. Et donc nous allons commencer tout d'abord avec une petite revue de presse sur l'actu maritime parce qu'il se passe des choses en ce moment sur la mer. Et avant tout, on va commencer en fait en parlant donc de l'actualité des catastrophes parce que quand on parle d'écologie, on va pas en parler en bien, on en parle souvent en mal. Et du coup, on va parler un peu de ce qui s'est passé là récemment. Il y a eu des vagues géantes donc sur la Côte d'Azur. Est-ce que vous avez un peu suivi ça, vous, Simon, tu as un peu suivi ce qui s'est passé là-dessus?
J'ai eu quelques infos, quelques vagues d'infos justement. Et il me semble que c'est lié essentiellement à des forts vents dans cette zone, quoi. C'est une tempête, on peut le dire.
Oui, tout à fait.
Une bonne tempête d'ailleurs.
Hein. Ouais, c'est ça.
6-8 mètres de vagues apparemment.
Alors,
c'est un phénomène assez rare en Méditerranée, je pense.
Oui, ouais. Carrément, sinon ils auraient inventé le surf là-bas.
Ouais. Du côté de la Bretagne, on connaît bien ces vagues. Mais...
Ah ouais? Quand on n'y est pas habitué, c'est clair que ça fait des dégâts. Mais là, ça s'est passé, donc on en a parlé surtout à Cannes, hein, où il va y avoir un festival, où il y aura beaucoup de bourgeois qui vont, beaucoup d'artistes qui vont y être. Et les dégâts se chiffrent en millions d'euros. Là, c'est un article donc, de l'AFP que j'ai tiré sur la toile. Donc c'est le directeur général des services qui est Alain Joannjus, donc à Cannes, qui a affirmé ça. Comme quoi, quand on en parle surtout en chiffres, c'est marrant, comme d'habitude, quoi, je dirais. Et on en a parlé aussi à Nice, parce que le maire de Nice, c'est aussi le ministre de l'Industrie. Et là aussi, on en a beaucoup parlé de ce qui s'est passé. Et même, il songe à classer dans les communes donc, du littoral, que ça soit examiné en fait, dans les prochaines commissions interministérielles. Notamment à Paris le 27 mai pour les classer donc, en zone catastrophe naturelle. C'est plus facile quand on est maire d'une commune où il y a eu ces problèmes-là. En gros aussi, donc il y a eu donc quelques petits dégâts en fait au niveau des restaurations, des choses comme ça, mais à ce qui paraît, ils vont s'en sortir. Et les vagues étaient donc à peu près de 6 mètres, à ce qui paraît. Donc voilà, en fait, donc c'était juste pour commencer une petite intro là-dessus, pour rappeler aussi que quand on parle, là on parle des dégâts en termes de millions d'euros, ça donne un petit aperçu de ce que sera le réchauffement climatique, peut-être un de ces jours avec les pays qui vont être engloutis sous la mer. On ne sait pas où est-ce que ça va se passer exactement, mais au moins ça donne un aperçu de ce que c'est. Si déjà là on compte cet événement en millions d'euros à Cannes, qu'est-ce que ça va être quand il va y avoir plein d'autres pays et qui
en millions d'euros à Cannes. Il y a, mis à part les fauteuils de plage, il n'y a pas eu tant de dégâts que ça.
Bah, c'est ce que prétend l'AFP en tout cas.
Il y a toutes les cuisines des restaurants, ça va plus loin que juste le mobilier.
Ça a été le grand nettoyage de printemps, quoi, en fait.
Tous les plagistes, peut-être des digues aussi qui ont sauté, tout ça.
Oui, il y a des digues aussi qui sont détruites.
Des aménagements structurels qu'il va falloir refaire, quoi.
Exactement. Et Monsieur Benoît Candel, je ne connais pas, mais ils n'ont pas dans l'article, a affirmé que ce qui est frappant dans ce phénomène, c'est à la fois sa puissance et sa soudaineté, parce que personne ne s'y attendait. Et en quelques minutes, l'état de la mer est passé d'un état vaguement agité à des vagues très hautes et très dévastatrices. Et d'ailleurs, ils étaient en état de vigilance jaune et même pas en orange. Donc je ne connais pas très bien
Oui, ils ont tous été surpris. Hein. C'est arrivé vraiment hyper rapidement.
Comme quoi, toujours des surprises quand on est sur la mer. Il y a aussi d'autres événements qui sont arrivés, notamment sur les côtes australiennes, exactement. Donc c'était il y a un peu plus longtemps. Il y a eu un navire chinois qui transportait du charbon et qui a répandu du mazout sur la Grande Barrière de Corail. On peut le remercier, mais bon, c'est pas totalement de sa faute non plus à ce qui paraît. Mais ils encourent une amende de 920 000 $, soit 681 000 euros pour avoir fait ça. Tu peux nous en parler un petit peu, tu penses, ou tu as suivi un peu cet événement-là aussi?
J'ai suivi de loin. Ouais, t'arrives à dire mon nom de famille et mon prénom, tu blagues.
Ouais.
J'ai suivi un peu comme tout le monde en regardant les infos, donc c'est assez terrible pour la barrière de corail, sachant que c'est le seul organisme vivant qui est visible de l'espace. C'est un truc assez extraordinaire, la Grande Barrière de Corail. Donc. C'est déprimant, quoi. Bon, super mauvaise nouvelle encore.
Simon, tu as une réaction par rapport à ça?
J'ai pas trop suivi, donc je peux pas
d'accord.
M'aventurer.
Donc, comme tu l'as bien affirmé, en fait, c'est vraiment toute une biodiversité, on pourrait dire, à ce niveau-là, qui reste d'être bien perdue, surtout que c'était déjà assez fragile, on pourrait dire, à la base, à la Grande Barrière de Corail.
Oui, il y a déjà beaucoup de menaces qui pèsent sur le corail, l'acidification des océans, le réchauffement climatique, les chaluts pélagiques qui détruisent tout. Donc là, vraiment, c'est...
Les Australiens ne sont pas contents, en tout cas.
Oui, là, ça, c'est clair, ils ne sont pas du tout contents. Et vu l'amende qu'ils vont payer, je dirais que voilà, c'est de bonne guerre, quoi. Donc voilà, en fait, c'était juste pour une petite nouvelle à ce niveau-là sur le navire chinois qui a menacé la Grande Barrière de Corail. Et pour la suite, nous allons aussi parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi, je n'étais pas présent. En fait, je n'ai pas la télé parce que je suis anti-télé, c'est un peu bête. Et je n'ai pas trop suivi les événements aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un qui a suivi peut nous en parler à ce niveau-là?
Ah bon, c'est moi. Je suis désignée d'office. Je ne regarde pas trop la télé non plus, mais bon... c'est une catastrophe écologique et économique aussi visiblement, puisque c'est une région qui vit beaucoup de la pêche, donc y a déjà beaucoup de tortues marines, j'ai vu, qui sont mortes. Là, il y a une grosse menace sur la biodiversité, sur les activités locales. Donc Monsieur Obama dit que BP va payer, puisque BP est responsable. Maintenant, je sais qu'ils ont embauché certains pêcheurs qui sont au chômage forcé. Donc, ils les embauchent pour nettoyer un peu tout ce pétrole. Et en échange, les pêcheurs signent un contrat comme quoi ils s'engagent à ne jamais poursuivre BP pour les dégâts occasionnés. Donc, voilà, ils perdent pas le nord, BP. Ouais. Mais j'espère bien qu'ils vont payer. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus stricts au niveau du principe pollueur-payeur par rapport à la France. Donc ça, c'est un plus. Maintenant, c'est très mauvaise nouvelle, une fois de plus.
Oui, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, qui a explosé le 22 avril, annonce peut-être la catastrophe écologique du siècle.
C'est parce que
c'est plus de, je crois que c'est 5000 barils par jour de pétrole qui se déverse dans l'océan. C'est une catastrophe, ça touche la Louisiane, la Floride, et ça touche aussi notre sujet, parce qu'apparemment, il y a un thon rouge qui a une zone de frais dans les parages, donc au niveau des espèces en voie de disparition. C'est phénoménal.
Alors justement, on va y venir, mais juste avant, je voulais vous parler donc d'un article que j'ai lu sur Basta, donc un site internet avec des journalistes altermondialistes et assez militants. Et notamment, eux, ils disent qu'en gros, selon donc, un site d'information indépendant Truth Out, il y a des ingénieurs qui ont travaillé pour BP qui découvrent qu'il y a que cette marée noire, en fait, cette marée noire, c'est pas exactement ça, mais...
T'entends pas quelque chose ?
Si, j'entends le...
On égorge quelqu'un, non ?
Bah, c'est ce qui se passe quand on est en haute mer. Hein, donc, on entend des bruits bizarres.
Des bruits bizarres, effectivement. Plus, ça vous dit rien.
J'espère qu'on les entendra encore longtemps. C'est des baleines.
Tout ouais, à fait.
Exactement. Et donc, justement, par rapport à ça, pour revenir donc, la marée noire, ou d'autres marées noires en perspective, en fait, qui vont certainement arriver. Pas sur les côtes de Louisiane, mais sur le golfe du Mexique, il y a un endroit donc, en fait, qui, comme donc Deepwater Horizon, là où donc, ça avait pété, qui s'appelle Atlantis. En gros, en fait, il y a certains lanceurs d'alerte. Donc, les lanceurs d'alerte, c'est des personnes qui bossent dans ces entreprises, en gros, qui ont... un peu un devoir de confidentialité, mais qui du coup considèrent qu'il y a quand même des dangers assez énormes et qui vont donc lancer l'alerte pour prévenir un peu les autorités ou le grand public au moins de choses qui se passent, comme ça s'est fait pour le tabac, pour les OGM, ça se passe aussi en France, des choses comme ça. Et donc en gros, donc le site Truth Out donc, s'est procuré donc, certaines correspondances internes grâce à ces lanceurs d'alerte et qui montrent qu'il y a vraiment des grosses insuffisances donc, en termes de système de sécurité à Atlantis. Et donc il y a des schémas techniques qui montrent que les schémas techniques ne sont pas complets et que ça pourrait aussi mener à des erreurs catastrophiques donc de la part d'opérateurs sur ce site-là qui est d'après ce qu'ils disent donc le plus grand du monde en gros ce site Atlantis et du coup ça pourrait provoquer si c'est une catastrophe comme ça s'est passé récemment ça pourrait provoquer encore plus de dégâts. Et on y voit, par exemple, il y a certains ingénieurs, il y a Max Sauer, donc, qui en mai 2009 a travaillé donc, sur Atlantis, et qui constate que 85% donc, des 2108 instruments de contrôle de commande des canalisations n'avaient pas été soumis à une validation donc, des ingénieurs, que 95% des soudures sous-marines d'Atlantis ne seraient pas certifiées. Et il prétend que si elle rampait, bah, la marée noire serait 30 fois pire que celle générée donc, par l'explosion de Deepwater Horizon. Comme quoi, ben, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et il y a encore plein de choses. Hein. BP, c'est pas la première fois. C'était un mauvais élève à ce qui paraît auparavant. En 2003, ils ont eu une amende donc, de 75. Ils ont été condamnés à une amende de 75 000 $ pour ne pas avoir mis donc, en adéquation la pression de l'eau avec l'un des systèmes de protection contre le feu d'une plateforme et 80 000 $ d'amende pour avoir évité les alarmes de sécurité. Indicatrice des dangers de la haute pression. Donc en gros, c'est vraiment de très mauvais élèves hein, dans ce cadre-là. Mais le premier trimestre 2010, BP vient d'annoncer une augmentation de 135% de ses profits, soit 6 milliards de dollars, comme quoi l'or noir, comme on le dit...
Il ne connaît pas la crise.
Il ne connaît pas la crise, exactement.
Finalement, tout va bien alors.
Tout va bien pour BP et pour l'instant, on va voir pour la suite. Je voulais aussi regarder les cours de la bourse... mais j'ai pas eu le temps pour voir si
c'est chuté de 10 points pour BP. Ouais.
Bon, bah voilà, hein. Comme quoi c'est bien mérité. On espère que ça chutera encore plus et que ce ne sera pas les seuls. Du coup, ça, on va enchaîner donc, sur le temps rouge, puisque tu en avais parlé tout à l'heure, pour en gros parler un peu à ce niveau-là de la biodiversité marine, donc ce qu'il y avait eu en ce moment. Donc le temps rouge, je me suis renseigné là-dessus, à ce qui paraît une espèce de temps qui est caractérisé par la couleur rouge. De leur chair très claire, J'ai vu ça sur Wikipédia, attention, hein, j'ai fait une grande enquête, et qui sont vraiment menacés de surpêche. On peut en parler maintenant ou tout à l'heure quand on parlera de Sea Shepherd.
Menacés de surpêche, non, moi je dirais menacés plutôt de disparition, d'effondrement des stocks. Alors j'aime pas ce terme, mais bon, je le reprends quand même, commercial. Parce que la surpêche, elle a lieu depuis une bonne vingtaine d'années. On a éliminé 85% des populations originelles de thon rouge en Méditerranée. Donc on n'est pas en menace de surpêche, on est en plein dedans.
J'ai une petite info qui date de 2006 pour dire à quel point c'est catastrophique. Il y a de plus en plus de preuves qui montrent que la pêche au thon rouge en Méditerranée échappe à tout contrôle. C'est une déclaration du WWF, donc en 2006, et ils annoncent la fin du thon rouge pour 2012. Nous sommes en 2010, qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Alors 2010, qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Il faut enrayer la pêche illégale. On n'arrivera à rien si on n'y arrive pas.
Alors exactement, donc il y a eu des réunions récemment, hein, donc par rapport au commerce international, enfin par rapport à l'interdiction donc du commerce international du thon rouge, on en a beaucoup parlé. La France a fait un gros bruit pour dire oui, on est pour l'interdiction, mais dans plusieurs mois, 18 mois, je crois.
18 mois, oui.
Exactement. Sauf que en gros, ces 18 mois, ça aussi, ça laisserait pas. On évalue en gros que il ne reste aujourd'hui que moins de 15% donc de la population d'origine. C'est l'ICAT qui avait dit ça. C'est un institut.
C'est l'institut de la conservation des thonidés qui est censé réguler la pêche et donc préserver le thon rouge. Sauf qu'il y a une aberration dans ce système, c'est que l'ICAT, c'est un consortium de pays pêcheurs, donc de pays bénéficiaires du thon rouge. Et c'est à eux qu'on demande de réguler la pêche. Donc on leur demande, ils sont en fait juges et parties. Et c'est complètement contre-productif. Et c'est ce qui explique aussi la complète incapacité de l'ICAT à préserver le thon rouge.
Exactement. Et du coup, en fait, donc il y a la CITES, c'est ça ? Ça se prononce comme ça ? CITES.
La CITES. Voilà.
La CITES.
Donc qui est chargée donc pour le ONI de la gestion et de la commercialisation ou l'interdiction de commercialisation des espèces en danger. Qui s'est réunie en février 2010 et qui a attendu donc qui s'est dite favorable à une interdiction générale. Donc c'est ce qu'ils avaient dit en février donc par rapport au commerce, la commercialisation du thon rouge. Mais ils attendaient donc une assemblée générale en mars 2010 pour confirmer donc cette réunion avec les 175 États membres. Donc si je me trompe, il faut me corriger. En gros, donc finalement, alors que l'Union européenne avait annoncé qu'ils interdiraient aussi le thon rouge, enfin il y a eu de grandes annonces.
L'Union européenne y allait plutôt timidement. Enfin, les États européens se sont mis d'accord un peu à la dernière minute. Oui. La France y allait à reculons avec son délai de 18 mois qui était complètement aberrant. Donc ça a été surtout mené par Monaco et ça a été dilapidé en deux temps trois mouvements par la force de lobby énorme qu'est le Japon, la Libye. Qui a empêché en fait tout débat et qui a obligé en fait les États à se prononcer tout de suite.
En plus, il faut rappeler que la Libye est un pays pêcheur.
C'est un pays pêcheur, mais c'est un pays en plus pêcheur complètement hors de contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limitation. Je veux dire, en Libye, on fait ce qu'on veut. Voilà, encore plus qu'ailleurs.
Et moi, j'avais une question. Pourquoi il y a tant de prédation autour sur le thon rouge ?
Parce qu'un thon rouge peut se vendre jusqu'à 175 000 dollars le thon.
Le thon, d'accord.
C'est une manne financière qui est énorme. Et en fait, on n'est pas dans une pêche au sens classique. Oui. On est dans une pêche de spéculation. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a des milliers de thons rouges qui sont en ce moment stockés dans des cales frigorifiques de Mitsubishi au Japon. Moins il y aura de thon rouge en Méditerranée vivant. Et plus les thons rouges qui sont stockés chez Mitsubishi vaudront cher.
C'est de la spéculation.
C'est de la spéculation sur l'extinction d'une espèce. Voilà, donc ces gars-là ne sont pas des pêcheurs, c'est des pilleurs. Voilà.
Totalement. Donc, le poids des lobbies économiques, on peut dire, et de pays comme le Japon, surtout, qui est un très grand consommateur de ce type donc, de...
80%, je crois.
Il y a 90% des thons rouges qui sont expédiés au Japon.
Exactement.
Et 80% des thons rouges qui sont pêchés vont dans des fermes d'engraissement.
Donc, et on estime aussi que 80% donc, des ressources, désolé pour le terme, donc, c'était sur Wikipédia, de thon rouge donc, de l'Atlantique a disparu dans les années 90, enfin entre les années 90 et 2010. Donc c'est vraiment une espèce, enfin c'est vraiment pas pour rire. Moi je me rappelle que j'avais vu une publicité donc, de Édouard Leclerc qui disait, on peut dire que ça a aussi un lobby économique à ce niveau-là, qui disait comme quoi le thon rouge, enfin en gros, c'est pas vraiment une espèce en voie de disparition. C'est ce qu'il prétendait vraiment, il défend, enfin c'est une publicité qu'ils avaient fait. Et en gros, ils disaient oui, mais il faut défendre les pêcheurs, on fait limite du commerce équitable en défendant les pêcheurs. Et donc on voit bien le travail du lobby économique.
Bah, vous avez toutes sortes de marketing vert, mais bon, on peut se dire qu'est-ce qu'a gagné Édouard Leclerc là-dedans ? Beaucoup. Qu'est-ce qu'ont gagné les scientifiques qui travaillent indépendamment ? Rien, si ce n'est la préservation de l'espèce. Donc il faut des observateurs et des scientifiques indépendants pour donner un état des lieux qui soit objectif. Mais les pêcheurs eux-mêmes, enfin je veux dire, il y a différentes catégories de pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui voudraient que leurs enfants puissent pêcher un jour, et eux sont les premiers à dire qu'effectivement il est de plus en plus difficile de trouver des thons rouges. Il y en a qui se retirent d'eux-mêmes du secteur de la pêche parce qu'ils voient bien que c'est en train de se mordre la queue. Donc voilà, et après il y a les autres, ceux qui investissent dans des thoniers industriels largement subventionnés par l'Union européenne et qui vont dans les moindres coins traquer les derniers thons rouges et qui espèrent que l'espèce disparaisse parce que c'est là qu'ils ont à y gagner.
Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que dans les communiqués officiels, on parle vraiment de bateaux pirates. On parle vraiment de pirates qui vont pêcher le thon rouge illégalement.
Ben non, illégalement, mais enfin juste des trois chiffres qui sont très parlants pour 2007 par exemple. Bon, les associations voulaient un moratoire sur le thon rouge. Bon, il n'a pas été adopté. Les scientifiques ont recommandé un quota de 15 000 tonnes. L'Union européenne a accordé 22 000 tonnes et c'est en fait plus de 60 000 tonnes qui ont été pêchées. Voilà où on en est. Donc,
Sur mes sources, en 2010, c'était 13 500 tonnes qui étaient autorisées.
C'est le quota de cette année. 13 500 tonnes. On verra combien vont être pêchées en réalité.
Oui,
beaucoup plus.
Tous les ans, il y en a beaucoup plus que ce qui était prévu, j'imagine.
Bien sûr.
Et en plus, en fait, donc, ce que j'avais lu, c'était aussi que pendant les périodes où, en gros, les thons rouges se reproduisaient, c'était vraiment les périodes où il ne fallait pas pêcher.
C'est le problème, en fait. Même là, vous voyez, cette année, en 2010, on a fixé 13 500 tonnes, qui est un quota honteux. On a réduit la durée de la pêche, sauf qu'on l'a réduit du 15 mai au 15 juin. Donc c'est un mois, et c'est en plein dans la saison de reproduction. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où les thons frais en surface, et c'est là qu'ils s'agrègent, et c'est là que c'est le plus facile de les attraper.
Bon, en tout cas, il y a quelqu'un. Tu veux rajouter quelque chose, Yoel ?
Non, je pense qu'on peut parler de Sea Shepherd.
Justement, ça fait une bonne transition. Vous avez vu donc Sea Shepherd. On a une spécialiste à côté de nous qui nous en parle, et nous allons donc faire un zoom sur Sea Shepherd pour en parler plus en détail après une petite musique.
Je vous propose. C'est un peu tard pour le caviar.
La nature bourdonne. On est d'accord.
Métronome à l'unisson. L'homme se badigeonne, chacun sa pomme et son calgon. Des ruisseaux pour boire de l'eau, coûte un peu sel dans les tuyaux. Touriste multitransnational, bienvenue sur la côte de Bhopal. X 1000 décès par an, avortement thérapeutique, certifié pH, asphyxiant et malformation génétique. Vous tenterez bien l'aventure, manger des poissons au mercure. Pour connaître les températures, sous le bout du front, jusqu'à morsure. Morte pleine et morne chaîne, champ de coton, exit les pontons, l'estomac dans les talons. Adieu rivage, écaille et crème, tempête du désert, défoliante. Les pêcheurs au fond des cales, poussière et moteur qui décantent. Au bord du Yachting Club d'Aral, sel pesticide à l'horizon. Petit trou dans les poumons, respirez un coup à fond. Petit garçon deviendra tronc. Désolé, chante dame. Pour le caviar, c'est un peu tard. C'est pas un scoop, y'a plus de poiscale, ni même un drame. Allez, on se barre. Nous survolons les forêts de Napal. Adieu, fleurs parfum du Vietnam, Monsanto. Illico presto, tout envolé, même les oiseaux. Agent orange, secret d'état. Cancer étrange, c'est délicat. On fera une quête pour les vétérans. Don de casquette pour les habitants. Quête pour les vétérans. Casquette pour les habitants. Barrages et réserves d'eau stagnante, bilariose sur la détente, bactéries par voie cutanée, un plongeon et c'est gagné, coupe de bois exotique, dans un salon ça fait très chic, les autochtones à genoux exsangues, virus palu, fièvre jaune et dengue, l'Afrique et ses crises militaires, camp de réfugiés aux frontières, quelques gouttes d'eau sous une tonnelle,
près des ordures qui s'amoncellent, entassées, tout le monde est là. Il y a même Monsieur Ebola, cette petite peste de choléra, et toute la Traviata. Saluer toute la famille, galopant tel un félin, comme si je jouais mes dernières billes. Mais ce n'était pas très malin, je me suis tordu la cheville, chute, et c'est le coup du lapin. Je suis à mon aise au Père Lachaise, sourire à la bouche en coin. Mon globe terrestre, ce vieux manège, valse aussi bien qu'un pantin. On le sait depuis longtemps que les colonnes du baldaquin se fissurent lentement et personne n'y peut jamais rien.
Merci à Iwan qui est au fond de la cale là-bas, qui nous envoie du son comme il faut. Donc du coup, on va passer à l'abordage. Donc Sea Shepherd, donc on a avec nous sur 106.3, donc sur Radio Fréquence Paris Pluriel, Zoom le navire Zoom Écologie, et on va passer donc à l'abordage en parlant donc de Sea Shepherd. Est-ce que tu peux nous en parler, donc Lamia Essemladi, qui est la présidente donc de Sea Shepherd France.
C'est ça.
Attention. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler des origines, donc de la genèse de l'association, comment ça a été créé, qui l'a créé, tout ça?
Bon, Sea Shepherd, donc ça veut dire berger des mers. Ça a été créé par Paul Watson, qui est un cofondateur de Greenpeace. Il quitte Greenpeace en 1977 parce qu'il veut faire plus que de la protestation. Il veut faire de l'intervention directe de manière un peu plus péchue. Et ils fondent la même année Sea Shepherd. Donc le premier fait d'armes de Sea Shepherd, c'est en 1979, où il coule le baleinier pirate Sierra à Lisbonne. Donc c'est un baleinier qui tue à des milliers de baleines par an, en toute illégalité. Voilà, donc les premières actions de Sea Shepherd, ça a été ça. C'est des coulages de bateaux, à quai toujours. C'est hyper simple en fait, on s'assure qu'il n'y a personne à bord, il y a quelqu'un de Sea Shepherd qui s'introduit dans le bateau, il y a une vanne d'arrivée d'eau de mer dans tous les bateaux, on ouvre la vanne, en une demi-heure de temps, le bateau est par le fond. Donc l'intérêt de ce genre d'action, c'est que déjà ça permet de... les bateaux qui tuaient des baleines ne vont plus en mer, donc mathématiquement ça sauve des baleines, mais ça a aussi un effet ricochet sur l'ensemble de la flotte baleinière, parce que les actions de Sea Shepherd obligent les baleiniers à prendre une assurance de guerre, qui est 3000 fois supérieur à une assurance classique. Donc c'est un argument hyper dissuasif.
Une assurance de guerre?
Ouais.
C'est contre l'abordage?
Parce que quand on chasse la baleine, il y a un risque potentiel d'être coulé par Sea Shepherd, et donc les assurances sont très, très réticentes, donc elles exigent une assurance de guerre.
Il faut rappeler qu'il n'y a pas de victime humaine.
Il n'y a jamais eu aucune... Personne n'a jamais été blessé dans le cadre de nos actions, et il n'y a même jamais eu aucun chef d'inculpation retenu contre Sea Shepherd. Pourquoi ? Parce qu'on a deux limites qui sont, d'une part, une limite essentielle qui est celle de la loi internationale. On agit toujours dans le cadre des lois internationales, et on fait respecter les lois existantes. Donc on est, ce qui définit mieux Sea Shepherd, c'est une association anti-braconnage, qui utilise l'intervention directe et pas la protestation. On n'est pas une association de protestation. Ça ne nous intéresse pas d'arborer des banderoles. On estime que pour les actions illégales, les banderoles, c'est dépassé.
Juste pour savoir, pourquoi ça s'appelle Sea Shepherd? Pourquoi les bergers? Est-ce que tu connais un peu la genèse philosophique même de ce nom?
Parce que les bergers en fait gardent les troupeaux, et Paul Watson se considérait un peu comme un berger de la mer. Ce qu'il voulait, c'était protéger ses troupeaux marins, ses baleines, ses dauphins. Ce qui le motive depuis tant d'années, c'est l'histoire qu'il raconte souvent quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il fait tout ça. C'est qu'en 1975, il s'interposait entre un baleinier et un harpon. entre un baleinier et une baleine, pardon. Et c'était un groupe de cachalots. Il y a un cachalot qui a été blessé en pleine tête. Et lui, il était sur son zodiac. Et ce cachalot s'est dirigé droit sur lui, sur le zodiac. Et il allait le percuter et retourner le zodiac et le tuer, lui et son copain qui était à bord avec lui.
Robert Hunter.
Et en fait, c'est ça, Robert Hunter, qui est un autre cofondateur de Greenpeace et qui a rejoint Sea Shepherd.
Aussi, oui.
Voilà. Ah bon. Et la fille de Robert Hunter, qui est chez Sea Shepherd aussi aujourd'hui. Et donc, il y a eu un échange de regards entre ce cachalot et Paul Watson. Et Paul dit qu'il a vu dans le regard de ce cachalot qu'en fait, il avait compris ce qu'il essayait de faire. Et il a, dans un dernier effort, en fait, au lieu de se laisser tomber sur le zodiaque et les engloutir, il a reculé. Et il a coulé au fond et il est mort. Et il dit que ce qu'il a vu dans cet œil-là a changé sa vie pour toujours. Et c'est ce qu'il fait courir depuis plus de 30 ans.
Donc, oui. Et donc les baleiniers, c'est un peu vos moutons noirs, quoi.
Bah, les baleiniers... Mais en fait, les baleines, c'est assez charismatique. Donc c'est vrai que c'est un emblème. Mais en fait, Sea Shepherd, c'est une association de conservation de la vie marine. On a fait des campagnes aussi pour... et on fait toujours d'ailleurs des campagnes pour les requins, qui ont un capital sympathie beaucoup moins important. Merci Spielberg. Et pour les concombres de mer, tu vois, c'est quand même beaucoup moins mignon qu'une baleine. Et pourtant, on s'investit aussi là-dessus. C'est la vie marine sous toutes ses formes. Voilà. Et ils ont tous en fait en commun le fait d'être des animaux marins, donc loin des yeux. Et ce qui se passe en mer, je pense, ne pourrait pas se passer sur Terre, en tout cas aujourd'hui, avec notre connaissance de l'écologie. Ce qu'on fait au thon rouge aujourd'hui, on ne l'admettrait pas avec des lions de la plaine du Serengeti. Et pourtant, c'est pareil. Si tu veux, c'est des grands prédateurs qui pèsent plusieurs centaines de kilos. Des animaux à sang chaud. Le thon rouge, c'est un animal extraordinaire qui est très méconnu. Ça reste un poisson. Et donc, pour les gens, c'est quand même... Il y a une déconnexion, en fait, du fait d'une méconnaissance. Hein, parce que...
Oui, une méconnaissance du milieu marin en général. Et...
Voilà. Comment dire ? On s'intéresse à... On aime ce qu'on connaît et on protège ce qu'on aime. Et si on ne connaît pas la mer, on ne s'y intéresse pas. Et donc, on se détourne un peu de ce qui s'y passe. Et c'est dramatique.
C'est dramatique et paradoxal, puisqu'il y a quand même 75% d'eau sur la planète. Quoi. Donc c'est,
bien sûr.
C'est,
ouais.
C'est vraiment un milieu qui est vaste et riche. Quoi.
Et ce qu'on fait en mer, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, les surfaces de mer qui sont livrées au chalutage, donc c'est ces bateaux qui raclent les fonds marins, qui détruisent tout sur leur passage. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques minutes, ils détruisent des coraux qui ont des milliers d'années. Il n'y a plus de vie après le passage du chalut. Cette surface en mer, elle est 150 fois supérieure à la surface de déforestation. Et pourtant, on en parle assez peu. Pourquoi ? Parce que c'est en mer et qu'on ne le voit pas. Parce qu'il n'y a personne qui vit là-bas et que, en fait, les vies qu'on détruit là-bas, c'est des vies dont on n'a pas idée. Et on est en train de détruire des trésors inestimables et c'est irréversible. Et c'est dramatique parce qu'en fait, on est en train de tuer les océans et on ne se rend pas compte que sans les océans, nous-mêmes, on ne pourra pas vivre.
Ce qui est marrant, enfin, non, pas marrant du tout, mais Jacques-Yves Cousteau, qui est très connu en France, disait exactement la même chose. Donc, est-ce qu'on voilà, on est à un point où il faut faire quelque chose, il faut agir. L'association rentre bien dans ce cadre de protection des océans. Il y a plein d'associations qui se créent d'ailleurs, et l'action directe de défense que peut opérer Sea Shepherd arrive peut-être juste à temps, juste avant la fin.
Bah, je pense qu'il est tard. J'espère qu'il n'est pas trop tard, mais il est tard. Et c'est vrai qu'on dit souvent que Sea Shepherd est une association un peu radicale ou extrémiste.
Les pirates.
Moi, je trouve qu'on est en fait dans un comment dire. Je ne trouve pas radicaux. Je trouve que c'est la situation qui est extrémiste. Je veux dire, on s'attaque à des actions qui sont illégales. Et ce que je trouve aberrant en fait, c'est que on est à le faire. Je trouve ça incroyable. Parce qu'en en fait, on fait le boulot des gouvernements. C'est pas Sea Shepherd qui devrait être en train de faire respecter le sanctuaire antarctique des baleines. C'est pas Sea Shepherd qui devrait lutter contre la pêche illégale. C'est les gouvernements. Ils ne le font pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'assoit, on continue à signer des pétitions, faire du lobbying, de la sensibilisation ? Mais tout ça, c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais finalement, quel est le résultat concret en mer. Il y a énormément de lois, de traités internationaux. Il y a des zones marines protégées. Il y a des moratoires. Et sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ?
Je peux en citer quelques-unes, chartes notamment, sur laquelle l'association se fonde. La charte mondiale pour la nature des Nations Unies. La commission baleinière internationale, convention sur le commerce international d'espèces menacées de faune et de flore sauvage, le CITES, la convention des Nations Unies sur la loi de la mer, etc., etc. Il y a plein de conventions qui permettent à l'association d'agir et de faire appliquer la loi, parce que ils sont souvent nommés comme, enfin ils ont, on les attaque souvent sur leur action, mode d'action direct. Et du coup, ils passent pour des pirates, mais dans le mauvais sens du terme.
En fait, je ne sais pas si tu vois notre logo, c'est le Jolly Roger, c'est un logo de pirate revisité, justement, où en fait, on a remplacé les os humains par le trident de Neptune et le bâton de berger, parce que justement, les gens ont commencé à nous traiter de pirates. Et au final, ce que dit Paul Watson assez justement, c'est que finalement, pourquoi pas, ça ne nous dérange pas, parce que pour arrêter des pirates, il faut des pirates. Et il dit que celui qui a arrêté la piraterie en Angleterre, c'était Henry Morgan, et c'était un pirate. Et voilà, tant que les gouvernements ne seront pas capables de le faire, parce qu'il y a des intérêts économiques énormes qui sont en jeu, il y a des lobbies très puissants, notamment ceux qui se sont très bien exprimés à la CITES récemment, tant qu'il y aura tout ça, on n'a pas grand-chose à attendre des politiques. Donc le temps presse, on a plus le temps.
En fait, c'est de l'ingérence écologique, ça fait un peu peur.
C'est un droit d'ingérence, et moi je dirais même que c'est un devoir d'ingérence. Ouais, complètement. Et la Charte mondiale pour la nature des Nations Unies, c'est un peu justement la base de notre légitimité, puisqu'elle incite les individus, les associations à faire appliquer les lois environnementales quand les gouvernements sont démissionnaires sur la question. Et en mer, c'est encore plus le cas qu'ailleurs.
D'ailleurs, j'ai une info qui va surprendre peut-être tout le monde, parce qu'on n'y est plus habitué, mais... la France, on n'est pas très fort pour sauvegarder les espèces maritimes, notamment les baleines. Il y avait des baleines dans le golfe du Gascogne. Et oui, on chassait la baleine, mais on l'a tellement bien chassée qu'il n'y en a plus maintenant. Et ça, c'est une info que j'ai redécouverte il n'y a pas très longtemps, à l'ensurfer souvent justement dans le golfe du Gascogne. Il y a encore des peintures de chasseurs de baleines sur leur canoë avec le harpon. Et voilà.
Il y avait effectivement énormément de baleines dans le golfe de Gascogne et on les a chassées jusqu'à l'extinction. Et même aujourd'hui encore, la France, par exemple au niveau des requins, c'est le deuxième pays qui pêche le plus de requins en Europe, après l'Espagne. Et c'est le pays qui pêche le plus de requins en voie de disparition. Donc le requin taupe, par exemple, qui est pêché à l'île Dieu, c'est un requin qui est en danger critique d'extinction. Et les pêcheurs là-bas refusent d'arrêter cette pêche. La France est le seul pays qui continue à pêcher le requin taupe en Europe.
Juste par rapport au requin, puisqu'on en parle, pour ceux qui ont trop regardé les Dents de la Mer et tout ça, en fait, les requins n'attaquent pas tellement les humains, à ce qui paraît.
Ils goûtent beaucoup.
Ils goûtent très peu.
En fait, c'est dû à un truc, c'est qu'ils attaquent surtout les surfeurs parce qu'ils les prennent pour des phoques, pour la plupart du temps, mais en fait, ils n'aiment pas
trop. Avec l'aileron de la planche, ouais.
C'est souvent le cas d'ailleurs quand les surfeurs sont attaqués, ils se font mordre une fois.
Ils meurent d'hémorragie. Enfin, il y a 5 morts par an. En fait, il y a 5 morts par an. Et ils meurent d'hémorragie. Ils meurent pas parce qu'ils ont été engloutis par le requin, comme ça a été montré dans les Dents de la Mer, mais vraiment parce que le requin a croqué dedans et il s'est dit ah zut, je me suis planté. Et quand on voit les centaines de millions de personnes qui nagent tous les ans dans des eaux où il y a des requins, 5 morts par an, c'est vraiment pas grand chose. Les autruches, elles tuent 20 fois plus de personnes que les requins par an. Les abeilles aussi. Les éléphants tuent plus de personnes que les requins. Et on a plus de probabilités aussi. Puis les humains, n'en parlons pas. Il y a plus de probabilités de se noyer dans sa baignoire que de mourir des suites d'une attaque de requin. Il y a plus de probabilités de se prendre un distributeur de soda sur la tronche que de mourir des suites d'une attaque de requin. Donc vraiment. Et à côté de ça, on tue presque 100 millions de requins chaque année uniquement pour leurs ailerons.
Donc on peut dire que cette histoire donc, de mauvaise réputation des requins, parce qu'on pourrait comparer par rapport à un dauphin ou une baleine ou un orque, c'est vrai que ça n'a pas le même capital sympathie, mais donc c'est une légende, enfin c'est une légende, il y a eu comme certaines réalités je pense, mais c'est quand même un prédateur quasi parfait, il a même son rôle écologique qui est très important on pourrait dire au niveau maritime, c'est-à-dire qu'en gros en tant que prédateur, il a une utilité réelle.
C'est un grand prédateur et donc il régule la chaîne alimentaire, mais surtout il est facteur de biodiversité, parce que quand on décapite en fait un réseau trophique, on perd en biodiversité et le requin, c'est la chaîne alimentaire en fait tous les espèces qui se mangent les unes les autres. Voilà. Et donc quand on, voilà, quand on enlève le sommet, on perd énormément de biodiversité. Et le requin, c'est, je sais pas, c'est un animal extraordinaire. C'est 450 millions d'années d'évolution. C'est un recordman de l'évolution. Il est plus ancien que les dinosaures. Il a survécu aux 5 crises d'extinction massive. Homo sapiens sapiens, c'est 200 000 ans. 200 000 ans face à 450 millions d'années. Et en quelques décennies, on est en train de faire disparaître ces animaux extraordinaires.
Il y en a combien d'espèces
pour des bols de soupe d'espèces de requins ?
Il reste une centaine, non, je crois, ou dans le monde, hein.
Ah, je ne saurais pas vous dire exactement.
En tout cas,
je sais qu'il reste moins de grands requins blancs que de tigres du Bengale, par exemple.
Bien sûr.
Parce qu'en plus, les requins sont pêchés uniquement pour certaines parties. Non,
oui, c'est les ailerons.
Les ailerons qui valent très cher et qui sont vendus sur le marché nippon pour la soupe aux ailerons de requin. Et un aileron de requin, ça peut se vendre jusqu'à 10 000 euros.
Ah oui. Ouais, non, mais pour ceux qui vont souvent sur les marchés un peu d'heure, en Tunisie, on en voit aussi quelques-uns des fois. Et, bon, c'est plutôt des petits requins, quoi, mais c'est vrai que c'est un commerce qui a lieu aussi bien comme le thon rouge, mais d'une autre façon. Quoi, et c'est aussi important d'en parler parce que en Europe, on ne voit pas trop les baleines. Hein, nous, on les pêche pas directement, on n'en mange pas directement ici. C'est plutôt au Japon, donc on pointe du doigt, mais le requin aussi, ça fait partie des choses que l'on voit un peu partout.
Pour faire la transition un petit peu avant de parler des actions de Sea Shepherd, c'est quand même là-dessus qu'ils sont le plus connus. Une petite info pour mes amis, mes potes surfeurs qui vont dans le golfe de Gascogne. Ils ont vu un requin à Biarritz, un magnifique pot bleu apparemment, de 2 à 3 mètres, qui se baladait devant Biarritz. Donc...
Ah, c'est cool. Moi, j'ai eu la chance de nager avec des requins blancs. Moi, j'étais dans une cage, c'était en Afrique du Sud. Et c'est absolument extraordinaire. Mais vraiment, ça impose le respect. C'est un animal magnifique. Quoi. Et je m'attendais à... Bon, je me disais que ce ne serait pas le cas, mais les images de requins blancs que j'avais eues, en tout cas jusqu'à présent, c'était des bêtes féroces qui ont essayé de choper la cage.
C'est un fantasme.
Ils étaient tellement... Il y en avait 5 et ils étaient tous hyper placides, à peine curieux et d'un aérodynamisme... Magnifique, magnifique.
Bon, il nous faudrait plus d'une... animal aussi méconnu, c'est le que j'ai eu l'occasion de voir en Bretagne parce que je pratique la voile. C'est le requin pèlerin qui est complètement inoffensif.
Ah, qui passe aussi au large de la station balnéaire qui est pas très loin de Bordeaux, excusez-moi. Ouais. Chaque année, c'est son pèlerinage sur l'estuaire de la Gironde. Passe un requin pèlerin assez connu. On entend parler chaque année au mois d'août, dans environ là.
Tout à fait. Ouais.
Et donc juste pour revenir un petit peu donc à Sea Shepherd directement. Donc vous adhérez au principe de non-violence. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça paraît comme une association radicale. Il n'y a jamais eu de personnes qui ont été blessées.
Ce qu'on fait, c'est de la non-violence agressive. On appelle ça comme ça.
Vous attaquez les biens, quoi.
Voilà. Et c'est Martin Luther King qui disait on ne peut pas commettre un acte de non-violence envers quelque chose d'inanimé. Donc nous, on s'attaque à du matériel de mort et en plus du matériel illégal. Voilà. Et on a comme règle de base de ne jamais blesser personne et d'agir dans les limites des lois internationales.
Et donc des lois internationales, c'est-à-dire... justement, moi, j'avais lu par rapport aux lois internationales, c'est que justement, vous basez donc sur la Charte mondiale pour la nature des Nations Unies, dont on avait parlé, et il y avait écrit justement dans cette charte qu'il y avait un devoir par rapport aux espèces menacées quand on voit une espèce donc, où c'est illégal de la pêcher, en gros, et une espèce donc, où c'est légal de la pêcher, qui a un devoir un peu d'ingérence, justement. Mmh. Enfin, c'est vraiment énoncé. Mmh. Et donc, au Canada, justement, il y a un procès qui a été gagné grâce à ça, je crois. Enfin, au début, hein, quand ça avait commencé. Et il y avait une campagne, donc, justement, qui avait bien marché là-dessus, où, en gros, en fait, qui s'était basé un peu sur ces textes-là. Et ça va... Vous avez vraiment... Enfin, Sea Shepherd, à l'époque, avait vraiment... les tribunaux avaient donné raison à Sea Shepherd.
À l'époque, en fait, c'était dans le cadre de la surpêche de la morue à Terre-Neuve. Effectivement, Sea Shepherd s'était interposé face à de la pêche illégale. Il faut savoir que la morue à Terre-Neuve, elle a été pêchée pendant des siècles et elle a fait vivre des centaines de milliers de pêcheurs. Et avec l'avènement de la pêche industrielle et tous les moyens techniques dont on a disposé, il y a eu la surpêche évidente. Et Paul Watson avait averti le gouvernement canadien que on pêchait trop. Le gouvernement canadien avait répondu « Mais non, mais nous, on a les meilleurs experts qui se penchent sur la question et qui disent que tout va bien. » En 1992, le stock de morue s'effondre. Moratoire imposé. On est aujourd'hui en 2010, soit 18 ans après. Il y a encore moins de... Ouais, je suis nulle en maths, hein, mais...
Moi aussi.
En tout cas, attendez, 92 à 2000...
18 ans.
Ouais. 18 ans, bon, nickel. Donc 18 ans plus tard... Il y a encore moins de morues qu'en 92. Donc voilà, en fait, on a atteint un seuil de non-retour.
Ouais.
Et c'est ce qui est craint aussi. En fait, on craint que le thon rouge prenne le même chemin que la morue de Terre-Neuve. Et la différence avec les espèces marines et les espèces terrestres, c'est que, par exemple, si vous prenez deux éléphants, que vous les foutez dans une réserve, dans 50 ans, vous aurez tout un groupe d'éléphants. Il y aura des problèmes de consanguinité, ce que vous voulez, mais en tout cas, il y aura un groupe d'éléphants plus imposant. Avec les espèces marines, ça ne marche pas.
Ouais.
Ça marche pas parce que le réseau trophique justement dont je parlais tout à l'heure est beaucoup plus complexe parce que du coup les petites morues elles sont mangées par ceux qui sont censés être leur proie parce qu'on a des systèmes de pêche qui sont des quotas de pêche qui sont monospécifiques, c'est-à-dire vous allez avoir un quota pour une certaine espèce. Mais les espèces, elles se côtoient entre elles dans l'écosystème marin.
Ouais.
Donc, quand vous allez pêcher, vous allez pêcher aussi quelques morues que vous n'étiez pas censé pêcher parce que vous pêchiez les espèces qui étaient dans le coin. Et du coup, les derniers spécimens, vous les prenez avec. Et c'est ce qui fait que les populations ne se restaurent pas.
Ouais, d'accord.
Et bien, on ne peut pas restaurer une population s'il n'y a plus les zones de frais. En plus, ils sont souvent chalutés. Et à ce moment-là, il ne reste plus la zone de couvage... Pour remettre en place, relancer l'écosystème.
Que, la destruction des écosystèmes et des habitats, c'est la deuxième cause d'extinction d'espèces. Donc c'est effectivement très important. Et ça, c'est valable aussi bien en mer que sur Terre. Donc c'est vrai que quand on lance des programmes de conservation des chimpanzés, par exemple, et qu'on n'a plus de forêt, ça pose un problème.
Exactement.
D'ailleurs, c'est arrivé justement que le WWF, la WWF, là-dessus, de monde, a mis en place, avec des programmes internationaux, des sanctuaires, on pourrait dire, marins, ce que j'avais lu dans le passé, où on ne pourrait pas justement pêcher dans ces zones-là.
Mais tout ça, c'est très bien. Mais après, il s'agit de les faire respecter. Voilà. Vous voyez, par exemple, l'archipel des Galapagos, qui est classé patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO, déclaré patrimoine en danger en 2007. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de braconnage sur la zone. Tous les ans, au sein du parc marin, il y a plus de 300 000 requins qui sont tués pour leurs ailerons. Il n'y a pas de moyens qui sont mis en place pour faire respecter ces interdictions. Donc ça reste des mots sur du papier, ça sert aussi à se donner bonne conscience. Ça ne suffit pas si sur le terrain, ça ne devient pas une réalité concrète.
C'est une campagne de Sea Shepherd, en plus.
Nous, on agit à ce niveau-là. En fait, vous parlez des Galapagos ?
Oui.
Oui, effectivement. Oui. Ouais. On a donné un de nos bateaux au parc marin pour les aider à faire des patrouilles anti-braconnage. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des braconniers qui soient appréhendés. On a aussi un groupe de chiens en fait qu'on a entraîné pour renifler les ailerons de requins, les concombres de mer dans les ports et les aéroports des Galapagos. Et
directement dans les conteneurs.
Ouais.
D'accord.
Ouais, parce qu'il y a énormément de trafic. Il y a quelques années, il y avait deux vols par semaine pour quitter les Galapagos. Aujourd'hui, il y en a plusieurs par jour. Il y a un trafic énorme. Les Galapagos, c'est un peu un crève-cœur. Moi, j'y ai été à deux ans d'intervalle et ce que j'y ai vu, c'est assez triste. La deuxième année, il y avait beaucoup moins d'iguanes marins, beaucoup moins de biodiversité. Il y avait plus de gens. Il y avait des hôtels qui avaient poussé, qui n'étaient pas là l'année d'avant. C'est triste. Il y a une pression démographique qui est énorme. Le tourisme, le problème, c'est que les touristes qui vont aux Galapagos, c'est qui vont dans les restaurants, qui veulent manger du homard, qui veulent manger des espèces marines, ils poussent aussi à la surexploitation d'un écosystème qui était jusque-là préservé. En plus, aux Galapagos, les espèces, elles avaient l'habitude d'être pendant des millions d'années isolées des hommes, donc elles ne sont pas du tout habituées à la prédation. On leur lâche des chiens errants, des chats errants qui bouffent les œufs des tortues, les œufs des oiseaux. Les oiseaux se font percuter par les bagnoles parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une voiture. Et c'est un carnage.
Et concrètement, vous avez quoi comme vos moyens de
Les moyens d'action.
nos moyens, ils sont dérisoires comparés à l'étendue de la tâche, l'objectif, et ça c'est assez frustrant. Maintenant, bah voilà, on a mis un bateau en place pour faire des patrouilles anti-braconnage. On a lancé en partenariat avec une autre association un programme pour récupérer tous les chiens et les chats errants, les faire stériliser et organiser leur retour vers le continent, parce qu'ils n'ont rien à faire aux Galapagos. D'ailleurs, il est interdit de les apporter, hein, les gens les amènent illégalement. Voilà, mais bon, c'est un peu... C'est une goutte d'eau dans l'océan. Après, j'espère vraiment qu'on va pouvoir sauver les Galapagos. C'est un peu emblématique de tout le reste. On se dit que si on n'arrive pas à sauver un endroit aussi unique que celui-là, là, en 2010, où on est censé avoir acquis une certaine conscience écologique, c'est que c'est foutu.
Mais c'est vrai que ce qui est amusant, c'est pas amusant en fait en soi, mais en gros, là, on a parlé un peu des Galapagos. Des requins, des baleines et d'autres animaux justement qui sont présents dans vos campagnes, c'est-à-dire notamment les dauphins et les phoques, qui eux ont en plus un capital sympathie, on pourrait dire, assez fort. Il y a eu quand même plein de reportages dessus, on les voit.
Bah, c'est mignon.
C'est mignon. Mais comme pour les baleines, moi j'avais vu en fait un reportage à l'époque, il y avait le mec qui, à l'origine du film, Le Grand Bleu, Jacques Mayol, en fait, en gros, le personnage dedans. Et donc lui qui avait nagé à un moment avec donc des gamines dans la mer, et à un moment, il y avait un requin qui était passé. Donc en gros ils ont un peu flippé, ils tournaient vraiment autour et il y a eu un dauphin qui est venu et qui les a protégés. Et c'est quand même intéressant de voir l'intelligence, incroyable quand même de voir un animal comme le dauphin venir protéger les êtres humains. C'est un peu comme l'histoire de la baleine finalement, de voir quand même qu'ils ont une forme d'humanisme, je dirais. C'est peut-être un peu égocentrique de dire ça.
C'est juste des dauphins en fait.
Ils ont fait un sac protecteur en fait autour, ouais, jusqu'à ce que le requin ait
pas. Ouais, il y a pas mal d'histoires de solidarité comme ça.
C'est vrai que moi, ça m'avait touché à l'époque. C'était à l'époque où j'avais la télé, de voir ça. Ça met une sensibilité. Et même malgré ça, il y a quand même des dauphins. Moi, j'avais vu des images sur votre site internet, justement, avec, des bains de sang, on pourrait dire. Qu'est-ce que vous faites justement à ce niveau-là aussi
Il y a des massacres de dauphins qui ont lieu tous les ans à Taiji, au Japon. Il y a le film de Cove notamment qui est sorti là-dessus. En fait, c'est Sea Shepherd qui avait mis à jour ces massacres-là en 2003, où il y avait deux militants de Sea Shepherd qui ont sauté à l'eau et qui ont libéré une quinzaine de dauphins qui étaient pris dans des filets qui devaient être tués le lendemain. Ouais. Donc les pêcheurs sont arrivés, ils les ont jetés en prison pendant 3 semaines. Et depuis, Sea Shepherd est persona non grata au Japon. Bon, en plus, on les fait bien chier en Antarctique aussi, sur la chasse à la baleine. Donc, effectivement, Sea Shepherd là-bas, c'est pas trop.
Vous avez un prisonnier politique, je crois, là-bas.
On a un prisonnier, ouais, Pete Bethune, qui est en prison au Japon, ouais, actuellement, qui attend donc son procès. Disons que, en fait, ils se justifient en disant que les dauphins mangent trop de poissons et que c'est de leur faute s'il y en a plus. Voilà, ce qui est complètement aberrant parce que les dauphins, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et on n'avait jamais eu de problème de poissons, de ressources en poissons avant l'avènement de la pêche industrielle. C'est évident que c'est les humains qui pêchent trop de poissons.
Effectivement.
Et là, on arrive bientôt au terme de notre voyage. Et pour les nouvelles du poisson voyageur, quels sont vos projets, vous, en France? Il y a eu l'ouverture d'un bureau en France depuis quand déjà?
Sea Shepherd France existe depuis novembre 2006. Ça a démarré assez doucement. C'est vrai que quand on a commencé, moi personnellement, je pensais que ça resterait embryonnaire en France, Sea Shepherd, parce que nos méthodes d'action, elles sont plutôt type à l'anglo-saxonne en fait. En France, c'est un peu, surtout en matière d'écologie en tout cas, on va signer des pétitions. Mais l'action directe à la Sea Shepherd, je pensais pas que ça susciterait vraiment l'intérêt, et j'ai été agréablement surprise de voir que pas du tout, qu'il y a énormément de répondants, à la fois au niveau du public, mais des médias. Et là, on lance la première campagne en Méditerranée. Alors, c'est pas Sea Shepherd France qui l'organise, Sea Shepherd France en fait partie, mais c'est une campagne internationale, donc pour tenter de sauver le thon rouge. Le bateau de Sea Shepherd sera dans la baie de Cannes pendant le festival du film. Et le top départ sera juste après. Et voilà, c'est une campagne qui devrait durer jusqu'en juillet.
Pendant toute la période de frais du thon.
On va cibler donc la pêche illégale. Ouais, exactement.
Par rapport à ces campagnes, est-ce que vous avez l'occasion de vous allier avec d'autres pirates, comme Greenpeace par exemple?
Greenpeace ne se revendique pas comme étant pirate. Déjà,
ils ont déjà fait des actions quand même.
Oui, je sais que Greenpeace, ils ont fait des actions au niveau par rapport au filet. Parce qu'en fait, je ne connais pas tous les détails, mais il y a des régions en fait, où on met des grands filets.
Filets pélagiques les lignes.
On les laisse, en fait, on laisse défiler sur des kilomètres, et Greenpeace ont déjà fait des actions de sabotage, on pourrait dire, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont coupé un peu les filets, etc. Mais c'est complètement interdit, d'ailleurs. Hein. Donc, il y a déjà eu quelques actions de Greenpeace là-dessus, mais c'est très, très, très rare.
On trouve des vidéos sur Internet, encore lui, de Greenpeace, hein, l'Antarctica, qui a éperonné un baleinier. Il devait être sérieusement énervé ce jour-là, parce que c'est pas du tout leur mode d'action.
Mais... Où ça ?
Sur Internet.
L'Antarctica, c'est quoi?
Pas l'Antarctica.
L'Espéranza.
L'Espéranza.
Alors, la version de l'Espéranza, c'est que c'est les baleiniers qui leur sont rentrés dedans et pas l'Espéranza.
Non, c'est possible parce que la vidéo n'est pas claire.
Ils tournent autour, mais par contre, ils font pas d'abordage.
Non, ils font pas d'abordage et Paul Watson a proposé plusieurs fois à Greenpeace de travailler en partenariat en Antarctique et Greenpeace a toujours refusé. Donc voilà, ils ont leur mode d'action, on a le nôtre et voilà.
Justement, on n'a pas parlé d'une chose parce qu'on parle de pirates, mais pourquoi on vous appelle les pirates et habillés tout en noir, bateau noir?
Bah, c'est nos détracteurs en fait qui ont commencé à nous appeler des pirates. C'est pas forcément justifié puisque effectivement on agit uniquement dans le cadre de la loi, donc c'est devenu un peu une image balancée comme ça. C'est comme quand on traite d'éco-terroriste, donc le Dalai Lama est devenu un terroriste. Enfin, c'est voilà, nous on a repris le truc et on sort dessus, on l'assume et il y a pas de souci.
En tout cas, pour vous contacter, comment on peut faire? Parce que
alors il y a un site internet, seashepherd.fr, ouais. Sur lequel vous avez différents contacts. Et puis donc pour se renseigner aussi sur la campagne Opération Blue Rage, c'est la campagne pour sauver le thon rouge qui démarre en mai prochain.
D'accord, donc on arrive au terme donc, de notre voyage sur le navire de Zoom Écologie. Merci à Simon d'avoir participé.
Bah, merci à toi, j'ai appris plein de trucs et c'était très intéressant.
Merci à toi, Lamia.
Merci de m'avoir invité.
Merci à Johan.
Au fond de la cale.
Et donc je finirai juste en lisant un petit passage donc, de ce que le capitaine Paul Watson a dit. Je suis honoré d'être au service des baleines, des dauphins, des phoques, de toutes les autres créatures vivant sur cette terre. Leur beauté, leur intelligence, leur force et leur esprit m'ont inspiré. Ces êtres m'ont parlé, m'ont touché et j'ai reçu de nombreux témoignages amicaux de membres de différentes espèces. Si les baleines survivent et prolifèrent, si les phoques continuent à vivre et à donner naissance, et si je peux participer à leur assurer un futur prospère, alors je serai heureux pour toujours. Donc c'était Paul Watson, fondateur donc, de Sea Shepherd Conservation Society et membre fondateur de Greenpeace. Merci, vous étiez sur le navire Zoom Écologie, sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. À la prochaine.